Donc, merci d'être là. Bonsoir. Merci pour cette nouvelle session de l'Université populaire du 78. Vous commencez à connaître. On remercie la municipalité de La Verrière qui nous permet d'être là ce soir. Et puis nos partenaires, donc Nouradine Lao qui représente la radio Marmite FM 88.4, la radio locale. Vous avez à l'entrée la librairie du Pavé du Canal qui vous présente un certain nombre de livres. On travaille également avec la librairie du Pavé dans la Mare à Elancourt et de la Nouvelle Réserve animée. Et avant de parler de la soirée de ce soir, la réunion de ce soir, je voulais vous rappeler, si vous avez eu le programme, vous avez peut-être tous vu, que le samedi 3 février 2018, ici même à 19h30, donc c'est un samedi et c'est à 19h30, va se dérouler la représentation du spectacle, de la pièce de théâtre de Nicolas Lambert qui s'appelle Le Maniement des larmes. Nicolas Lambert qui avait déjà fait un spectacle sur Elf, sur le procès Elf, qui avait fait un spectacle sur le nucléaire et qui nous revient avec un spectacle sur le trafic d'armes, tout un programme. Cette représentation de théâtre se déroulera le 3 février à 19h30, j'insiste, et c'est payant, contrairement à tout ce qu'on fait dans l'université populaire, puisque là c'est un spectacle professionnel. Et donc les billets sont en vente pour ceux qui sont présents ce soir, à l'entrée, sur la table, c'est 10 €. Donc comme il n'y aura pas de vente le jour même, on vous demande d'acheter par avance vos billets pour ce spectacle. Alors vous pouvez le faire dès ce soir contre 10 € ou bien par courrier. Alors ici vous avez la petite... au début, vous avez la petite explication, vous envoyez une petite enveloppe avec 10 € et puis une enveloppe pour qu'on vous renvoie le ticket. Voilà, n'hésitez pas à acheter votre ticket le plus tôt possible. Sachant qu'en plus, à l'issue de la représentation de théâtre, on a fait ça à 19h30 pour pouvoir ensuite faire une discussion avec Nicolas Lambert à l'issue du spectacle. Alors, ce soir, notre intervenant, c'est Jérôme Pimaud. Alors, on le remercie beaucoup d'être là. Il est venu avec son vélo d'ancien livreur. Donc il est ancien livreur à vélo, livreur notamment Deliveroo. Pour ceux qui commandent sur la plateforme leur repas, ils ont pu se faire livrer par un beau livreur Deliveroo avec un bel équipement et une belle sacoche. Pas une sacoche, tu nous diras comment ça s'appelle précisément. Il est membre du collectif des livreurs autonomes parisiens, le CLAP 75, c'est-à-dire des livreurs qui essayent effectivement de s'émanciper de la tutelle des plateformes comme Deliveroo. Et plus largement, il est devenu militant anti-ubérisation parce que voilà, les livreurs ont un peu expérimenté l'ubérisation avec les chauffeurs de taxi, contre les chauffeurs de taxi. Et donc, si moi j'avais proposé qu'on l'invite, c'est... Peut-être que a priori, vous n'êtes pas passionné par le principe de la livraison à vélo. Surtout que ce n'est pas encore arrivé à 50 ans en Yvelines. Je pense que ça ne devrait pas tarder. En tout cas, sur Versailles, ça carbure et ça y va de partout. Mais c'est parce que de son expérience, on peut en tirer les conclusions de ce qu'on nous prépare pour l'avenir du salariat, en tout cas à la fin du salariat, le passage à un statut qui ne serait plus le contrat de travail et le salariat. Et donc, ce qu'il va nous raconter ce soir, en fait, est intéressant bien au-delà de la simple question des livreurs, même si la question des livreurs et de la façon de s'émanciper de ces plateformes est tout aussi intéressante. Donc je ne parle pas plus longtemps, je lui laisse la parole. Peut-être que de temps en temps, j'interviendrai pour relancer un petit peu et pour recibler un petit peu les choses. Et on s'arrêtera au bout de 3/4 d'heure, quelque chose comme ça, pour pouvoir ensuite avoir une discussion, que vous puissiez poser un certain nombre de questions sur... le fonctionnement, ainsi que sur les moyens de sortir de tout ça. Et donc, je te laisse la parole pour démarrer, pour peut-être d'abord nous expliquer un peu ce fonctionnement et pourquoi est-ce qu'il y a tant de jeunes, semble-t-il, en tout cas à Versailles, qui sont attirés par être livreur à vélo.
Merci de m'avoir invité déjà. Et puis, merci de vous pencher sur la question, sur la problématique. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont sur des vélos, notamment là en ce moment, l'hiver, ça fait déjà 3 ans que ça dure. Qu'est-ce qu'on leur a vendu en fait ? Qu'est-ce qu'on leur a vendu plutôt que qu'est-ce qu'on leur a offert ? Parce que quand on entend dans la presse les discours des plateformes, que ce soit Uber, parce que c'est Uber la première plateforme dont on a parlé, et puis c'est elle qui a donné son nom à ce qu'on appelle l'ubérisation, que ce soit Uber ou que ce soit Deliveroo maintenant, ils laissent entendre qu'ils offrent des opportunités de travail, des opportunités de rémunération, des compléments de salaire, du job d'appoint, mais cette facilité d'accès au travail à un prix, c'est la socialisation de ce travail. Le travail au sein des plateformes est ce que j'appelle du travail désocialisé. tout est question d'ailleurs maintenant via le système politique, notamment de Macron, d'essayer de faire en sorte que ce travail soit viable, soit viabilisé juridiquement, économiquement par des protections sociales. Je reviendrai un petit peu plus tard sur comment ça se monte. Donc on voit bien qu'il y a une réelle volonté politique, donc sociétale, d'aller vers cette désocialisation du travail. Alors comment ça commence en fait ? Non pas comment je commence, mais comment ça commence ? Tout ça n'aurait pas été possible, comme les Oscars, je vais commencer par remercier les gens sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Tout ça n'aurait pas été possible sans Sarko et Fillon qui, en 2007-2008, sortent le statut d'auto-entrepreneur qui permet à tout un tas de gens d'aller s'employer, en fait, d'aller créer leur structure, d'aller créer leur petite entreprise. Alors pour le coup, c'est vrai qu'il y a un engouement à l'époque de tout un tas de gens qui se disent « oui, je vais aller faire mon truc ». En tant qu'auto-entrepreneur, c'est super facile, il s'agit d'avoir 2, 3, 4 clics sur Internet, le site est monté très très vite. Et puis oui, l'auto-entrepreneuriat prend de l'essor comme ça. Mais pour le coup, en 2008, on est sur des auto-entrepreneurs, des réels travailleurs indépendants qui se choisissent, en effet, de s'employer pour faire, que sais-je, petits travaux à leur petite échelle individuelle. Va arriver en 2010-2011, le temps que ça soit créé aux États-Unis, la plateforme Uber. Uber qui permet à des chauffeurs, à des automobilistes, d'aller s'employer pour être chauffeur, on pourrait dire comme ça vite fait chauffeur de taxi, sauf que c'est tout sauf des chauffeurs de taxi, parce que évidemment il n'y a pas la fameuse licence du taxi, il n'y a pas la rémunération des taxis, il n'y a pas le tarif, en fait, le tarif des taxis qui est un tarif qui est décrété préfectoralement, une rémunération publique. Les VTC, voilà, sont gérés par la plateforme Uber, qui, évidemment, de par son entreprise libérale, a fait en sorte de travailler avec ces gens-là, ces auto-entrepreneurs, pour se libérer de tout ce qui est, lourdeur, entre guillemets, de son propre fait, lourdeur de tout ce qui est salariat. En effet, on voit bien que les travailleurs, les chauffeurs Uber, je parle un petit peu des VTC Uber, des véhicules de transport avec chauffeur, j'en parle un petit peu parce que c'est un petit peu la naissance du truc. On voit bien qu'en fin de compte, beaucoup de chauffeurs Uber sont contraints par la plateforme pour tout un tas de choses, pour tout ce qui est des lieux de travail, parce qu'évidemment, il faut travailler dans certains quartiers de Paris, à certaines heures, dans certaines zones. Donc les gens sont évidemment contraints par la plateforme Uber, qui embauche un maximum de gens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Les VTC à Paris, c'est presque 10 000, 20 000 chauffeurs dans Paris, pour, je crois, quelques milliers de taxis. Donc on voit bien que cette libéralisation a créé une espèce d'inflation au sein du métier qui fait que les premiers chauffeurs VTC, s'ils étaient bien payés, parce qu'il fallait qu'ils soient payés quasiment à rien faire, parce qu'il n'y avait pas encore de clients, les premiers qui ont été bien payés ont servi un peu de tête de gondole aux suivants qui sont arrivés par milliers, pour le coup. Et donc, évidemment, leur chiffre d'affaires a été dilué. Et avec tous les problèmes que ça crée au sein de la plateforme Uber, et puis dans leur vis-à-vis, qui sont les taxis, en fait, les taxis qui ont vu arriver cette concurrence déloyale. Voilà comment l'ubérisation s'est mise en place via le système de l'auto-entrepreneuriat, qu'en effet, je ne remets pas en question originellement, même si on peut imaginer que Sarko Fillon n'ait pas eu des velléités franchement gauchistes. Voilà comment elle s'est mise en place via, d'un côté, l'auto-entrepreneuriat et l'abus donc de statut, ce que j'appelle l'abus de statut d'auto-entrepreneur, et en face, une plateforme qui vient proposer des services, qui vient massifier, en fin de compte, l'utilisation de l'auto-entrepreneuriat. Alors voilà, ça naît dans le monde du VTC, qui est un monde auquel, c'est vrai, tout le monde n'a pas forcément ou accès ou envie, on n'a pas forcément besoin d'avoir un véhicule comme ça avec chauffeur, on a les transports en commun. Mais par contre, il y a un autre secteur d'activité, donc pour le coup que je connais bien, qui s'est développé, qui était donc la livraison à vélo, et notamment la livraison de plats cuisinés de restaurants à vélo. On connaissait tous la livraison de pizza et la livraison de sushi, qui est un phénomène qui a une trentaine d'années. Les restaurateurs, les chaînes se sont installées avec des livreurs à mobylette, puis ensuite à scooter, qui étaient des salariés, qui étaient des petits jeunes en salariat, des contrats assez courts. Mais bon, ils étaient salariés. Certains étaient au black, mais bon. Pour ne parler que des gens qui étaient dans les clous, les gens étaient salariés. La plateformisation de sociétés comme Deliveroo, mais à l'origine en France en 2014-2015, des entreprises comme TokTokTok qui a disparu, qui a été rachetée, comme Take It Easy qui a fait faillite, ça a son importance parce que ça montre la fragilité de ces entreprises. Ces plateformes-là sont arrivées sur un secteur où, en effet, elles proposaient à des restaurants et non plus à Pizza Hut ou à Domino's Pizza, elle proposait à n'importe quel restaurant d'avoir accès à un service de livraison, moyennant entre 20 et 30% du chiffre d'affaires, du panier du client, d'avoir accès à un service de livreur, mais comme ça, très très facilement. Ils s'occupaient de tout. Ils avaient juste le restaurant avait juste à brancher sa tablette, à s'inscrire. Les plateformes arrivaient avec des photographes pour prendre les photos des menus, des cartes en fin de compte, et ils moulinaient tout ça sur le site, qui fait que le client final, le client qui avait envie de se restaurer, n'avait qu'à cliquer sur la plateforme Take It Easy ou Deliveroo pour se faire commander un repas de chez la crêperie à Tartampion ou que sais-je. Surtout des burgers, des burritos, des choses quand même assez faciles à consommer. J'ai rarement transporté des blanquettes ou des bourguignons. Mais donc voilà, toute cette restauration. Et donc évidemment, pour mettre en place ce service au niveau des restaurants, il faut des livreurs. Et les livreurs, évidemment, comment on va les recruter ? Puisqu'il est hors de question qu'on les salarie. On parle de plateformes. On ne parle pas d'entreprise classique, on n'est pas sur une entreprise de livraison à vélo classique avec des salariés. On est sur des plateformes de mise en relation. Ces plateformes de mise en relation, elles ont besoin d'un troisième larron entre le client et le restaurant ou le commerçant. Elles ont besoin évidemment d'un livreur. Et comme il n'est pas question de les embaucher, on va faire appel à des livreurs auto-entrepreneurs. Et tout un tas de jeunes qui, souvent, n'ont pas le permis pour être chauffeur Uber, et bien là, on leur offre, et c'est pour ça que je disais offre entre guillemets, mais on verra au final qu'on leur vend, ou qu'on leur loue ce travail. Donc voilà, ça se passe dans des salles de réunion avec paperboard et bouteilles d'eau, et puis voilà, on présente le travail, on présente ce que sera cette facilité d'accès à ce travail-là. Alors c'est vrai que les plateformes ont beau jeu de dire dans la presse, c'est vrai qu'il n'y a pas de recrutement spécifiquement, il n'y a pas de discrimination à l'embauche, et on sait bien que c'est un vrai problème dans toutes les entreprises. Il n'y a pas de discrimination et n'importe qui peut venir travailler, il n'y a pas besoin de CV, il n'y a pas besoin de CV parce que déjà on n'embauche pas en tant que salarié, on embauche autant qu'auto-entrepreneur. Donc bon, le type a rempli sur le site des auto-entrepreneurs son petit statut, il a obtenu son numéro de SIRET et il peut donc aller s'embaucher dans une plateforme. C'est tout ce qu'on lui demande, d'avoir un numéro de SIRET parce qu'il faut qu'on le facture, évidemment. Et à partir de là, on monte sur son vélo et on commence à goûter à la liberté de ce travail facile, en effet, entre guillemets, on fait du vélo dans Paris, d'accès au travail facile parce qu'on n'a pas passé d'entretien. Il y a des plateformes qui, jusqu'à une certaine époque, faisaient passer quand même des tests. Il fallait suivre un livreur qui, en plus, s'amusait à larguer les bleus, les nouveaux. Et donc voilà, il y avait quand même un système de recrutement. Ils ont laissé tomber parce que les livreurs que nous sommes, au CLAP notamment, on a dénoncé plein de choses, et notamment ce système de recrutement et de sélection qui n'avait pas lieu d'être, puisqu'on était censé être des travailleurs indépendants avec nos qualifications, puisqu'on s'était engagé, qu'on s'était constitué comme entreprise de livraison, d'entreprise de transport. Donc les recrutements un petit peu sélectifs ont disparu. Tout un tas de choses disparaissent petit à petit, mais ce qui a fait la valeur de ces entreprises se sont construits sur, j'y reviendrai, c'est un mot que vous m'entendrez souvent prononcer, sur une forme assez prégnante de subordination. Et donc pour les plus sachants de ce qu'est ce terme, c'est évidemment la subordination qui fait la différence entre un travailleur indépendant et un salarié. C'est ce que j'essaye de dénoncer depuis 2 ans. Donc à partir du moment où on s'engage pour ces plateformes-là, oui, c'est vrai qu'on est sur son vélo, on est dans Paris, on a son téléphone qui sonne, on a l'application. Alors évidemment, c'est facile de servir de l'application, tout est fait pour que ce soit très très simple. C'est pas l'application qui est le plus compliqué à gérer, c'est le vélo en fait. Parce que autant quand on est jeune à vélo dans Paris, on se promène, on se balade, on va voir sa copine, on va à l'école en vélo, mais quand il s'agit de travailler avec des contraintes de temps, des contraintes économiques, enfin surtout des contraintes de temps et puis la contrainte de gagner de l'argent, on s'aperçoit que très très vite, on se met soi-même la pression. Donc les plateformes subordonnent parce que c'est elles qui nous envoient le client, c'est elles qui nous envoient dans tel ou tel restaurant. Elles nous disent de travailler à certaines heures, parce qu'évidemment, on ne fait pas de la restauration à 9h du matin ou à 15h30. Donc il faut travailler entre midi et 15h, il faut travailler entre 19h et 23h. Elles nous équipent évidemment avec des fringues, on le voit de moins en moins, parce qu'elles ont compris aussi que c'était un élément constitutif de subordination, donc elles prennent la liberté maintenant de nous dire bah, vous n'êtes plus obligés de porter les fringues. Mais voilà, elles se sont construites sur toute cette subordination qui fait que maintenant qu'elles sont bien construites et bien installées, elles peuvent, on va dire, lever la bride sur toutes ces choses-là. Tout est question de dénoncer la façon dont se sont construites ces choses-là. Ça me fait des fois penser un petit peu à l'American Dreams, en fait, qui est un pays plein de liberté, blablabla, mais qui s'est construit, on peut le dire, sur un génocide en partie. On l'occulte. Et plus ça va, plus les plateformes occultent la subordination qu'elles ont mis en place au début de leurs activités. Pour maintenant ne parler que de la liberté, de la flexibilité, évidemment, que tous les jeunes, soi-disant, rechercheraient au sein de ces plateformes, qui ferait qu'en fin de compte, par milliers, les jeunes viennent travailler sur ces plateformes. Le patron de Deliveroo, qui est l'espèce d'homologue du patron d'Uber. Le patron d'Uber, pour ceux qui le connaissent, il s'est fait jeter il y a quelques mois de sa boîte parce qu'il commençait à devenir un petit peu à dire un petit peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux, notamment, qui est devenu mon champ de bataille. Il a commencé des vidéos ont commencé à tourner sur le patron d'Uber qui s'était mis peut-être à croire en ce qu'il faisait. Son côté un petit peu je vais changer le monde via cette nouvelle forme d'emploi. Bon, bref, il a pété les plombs et Uber l'a gentiment poussé vers la sortie. Ils ont nommé quelqu'un d'autre à la place. Bref. Et le patron de Deliveroo disait il n'y a pas longtemps que les jeunes qui viennent travailler chez Deliveroo, sont là pour la flexibilité parce que c'est des jeunes qui sont là pour la flexibilité. Ce qui me fait poser la question, c'est si vraiment c'était si flexible, il y a tout un tas de gens qui quitteraient leur travail, salarié, CDI, lourd, hein, là, pesant, rigide, pour aller s'embaucher dans ces plateformes-là, sauf que ce n'est pas ce qui se passe, en fait. Les jeunes qui viennent travailler sur ces plateformes-là, à vélo, avec les gros cubes, en fait, on appelle ça des cubes dans le dos, viennent pas chercher de la flexibilité. Ils viennent juste chercher de l'argent, en fait. Ils viennent juste chercher un travail, de la rémunération, du pouvoir d'achat. Parce que, mine de rien, c'est la seule chose que leur offrent ces plateformes-là, c'est du pouvoir d'achat. On est sorti du salaire, le salaire avec, je ne vais pas vous refaire du Lepage, mais avec tout ce qu'il y a de protection sociale, à tout ce qu'il y a d'acquis et de conquis sociaux, on est sorti du salaire et on est vraiment sur le pouvoir d'achat. Maintenant, un jeune qui va travailler pour Deliveroo, oui, il peut gagner jusqu'à 2000 euros par mois. Alors de moins en moins, parce qu'ils sont de plus en plus, et les parts de marché n'augmentent pas à la même vitesse que les recrutements de travailleurs, parce que plus il y a de travailleurs, mieux c'est pour Deliveroo. Ils ne sont payés que quand ils travaillent. Ils sont payés à la course. On est payé à la tâche, en fait. C'est un aussi des gros chevals de bataille de tous les collectifs, c'est de dénoncer ce nouveau travail à la tâche qui nous revient Hein, il était un petit peu mort au 19e siècle. On avait tout fait pour que, bah, justement, le salaire repose non plus sur de la production, mais sur la qualification. Là, je ne fais plus du lepage, je fais du friot. mais voilà, on nous ramène, sous prétexte de modernité et de numérique et de travail avec du téléphone, de la rémunération à la tâche. Ce qui fait qu'en fin de compte, les jeunes, en effet, ne viennent pas chercher une quelconque flexibilité. Ils viennent avant tout chercher de l'argent. Et comme la seule chose qu'on leur propose, c'est du pouvoir d'achat, ben, c'est ce qu'ils prennent. Ça m'a choqué, hein, il y a 10-15 ans, même si je n'étais pas du tout là-dedans. J'étais animateur périscolaire. Et c'est vrai que tout ce combat, toutes ces recherches que j'ai faites m'ont fait prendre conscience de quelque chose que j'entendais depuis des années, que je n'entendais que depuis des années. On parlait plus de salaire. Alors moi, je me souviens, j'entendais parler quand j'étais jeune de hausse des salaires. Et puis j'ai entendu parler de gel des salaires. Et puis on n'a plus entendu parler de salaire. On a entendu parler de pouvoir d'achat. Et depuis Sarko, on entend parler maintenant de pouvoir d'achat. Le salaire est un truc presque duquel il faut se défaire. Sauf que il a fallu que je me renseigne de ce que c'était que le salaire. Enfin, je suis pas un vieux militant. Enfin, je suis vieux, mais pas militant. Je ne suis pas militant depuis très très longtemps. Mais il a fallu que je sache ce que c'était que le salaire. Il a fallu que j'étudie presque ce que c'était que mes fiches de paye. Et c'est Lepage, par rapport à tout son travail, qui m'a un petit peu aidé. Et donc, c'est ce que j'essaye de refaire comme arme, en fait, à tous ces jeunes qui sont dans la rue, pour certains, ceux qui veulent écouter, leur dire, voilà, quand vous gagnez 2000 euros par mois à vélo, vous ne gagnez que 2000 euros. Quand quelqu'un gagne 2000 euros, allez, ne serait-ce que 1500 euros en salariat, il ne gagne pas que ça, quoi. Il gagne beaucoup plus. Et en plus, il participe à offrir du pouvoir d'achat, justement, à des gens qui n'ont pas de travail, à des gens qui sont accidentés, des gens qui sont malades, des gens qui sont en congé maladie, c'est pas une maladie, enfin, en congé maternité. Bref. Et bon, tout ça, c'est un discours qui est difficile à donner aux jeunes, parce que c'est vrai que Uber et l'ubérisation et Deliveroo et ces plateformes-là, elles ont été malines. Elles ont été chercher des jeunes dans les quartiers. Ces jeunes qui, justement, n'avaient pas accès au salaire, au CDI, au travail, discrimination, au nom, à l'adresse. Et donc, elle a été les chercher. Et plutôt que d'aller les chercher en leur donnant un salaire, un emploi, elle a été les chercher pour leur offrir, pour leur vendre du travail comme ça. Alors, voilà, je répondrai peut-être à des questions plus tard, mais comment ça se passe, le travail, concrètement? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Qu'est-ce qui fait que, mine de rien, il y a des collectifs qui se montent un peu partout en France et puis en Europe? Il faut savoir qu'on a des articles de presse de temps en temps qui sortent, mais pour quelqu'un comme moi, dont le travail est de faire un petit peu... de faire un observatoire des luttes de l'ubérisation, ça pète partout en Europe. J'entendais parfois Uber, à l'époque des luttes entre taxis et VTC, les VTC contre les taxis, Uber qui disait, oui, mais c'est le problème des taxis français. Les taxis français, c'est une espèce de lobby mis en place par la G7, blablabla. Je ne vous refais pas l'histoire là-dessus. C'est vrai que la G7 a un gros pouvoir de lobbying, mais le problème d'Uber, ce n'est pas un problème franco-français. Ça pète de partout. Il y a des pays, il y a des villes qui interdisent Uber parce qu'elles ont compris la prédation que ça mettait en place, la précarisation, la concurrence évidemment déloyale. On a entendu parler de Londres il y a quelques semaines, où Londres a décidé de virer Uber de Londres parce que, alors, ils se sont servis du prétexte, enfin, qui n'est pas qu'un prétexte, c'est une réalité, de l'insécurité que les clients des voitures pouvaient être amenés à rencontrer par le fait que le chauffeur VTC, il peut venir de n'importe où. En fait, on peut même acheter des cartes de VTC. Il y a des militants syndicaux qui l'ont fait en France. N'importe qui peut être chauffeur VTC, alors que, bon, un chauffeur de taxi, c'est une licence entre 100 et 200 000 euros. Croyez-moi qu'on n'a pas envie d'embêter le client ou la cliente à l'arrière quand on a potentiellement sa retraite dans sa voiture de 200 000 euros. Les VTC, bon, voilà, on peut faire n'importe quoi. Grosso modo, l'ubérisation, c'est un petit peu ça. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Tout le travail des plateformes est d'organiser ce n'importe quoi. Et donc, à partir de là, on voit bien que l'ubérisation n'est pas un problème franco-français lié aux vieilles racines de gauche ou militantes. On entend parfois les libéraux dans les médias parler de vestiges communistes, en parlant de la sécu, de choses comme ça. On est sur une espèce d'absence de complexe, en fait. Mais c'est désinhibé, en fait. Le discours est désinhibé et les plateformes permettent justement aux libéraux d'avoir un discours tout fait, dans le sens où, oui, en effet, le salariat est trop rigide. C'est pour ça que les plateformes ont pignon sur rue et se développent, parce qu'il y a un réel besoin au niveau des travailleurs, il y a une réelle envie au niveau des clients. Alors, il faut démonter tout ça. Il y a moyen de le faire très simplement. Il faut savoir qu'en effet, l'envie des travailleurs, elle est juste d'avoir un travail, d'avoir au moins un pouvoir d'achat. Et l'envie des clients, il est factice, parce qu'il faut savoir que pour se faire livrer un repas au cinquième étage sans ascenseur dans Paris ou à Versailles, puisque Deliveroo travaille à Versailles, ça coûte, en plus évidemment du panier, du panier de l'addition, ça coûte 2,50 €. J'ai presque envie de dire, qui ne le ferait pas de se faire livrer à manger pour 4 ou 5, allez, on fait une soirée entre amis, ou la famille, on n'a pas envie de faire de la vaisselle, on se fait livrer le burger du coin, ça coûte 2,50 €, qu'on soit 2, 3, 4, 5. Et le type vient au cinquième étage, il a attaché son vélo, il monte avec son sac à dos, et puis bonjour madame, au revoir madame, 2,50 €. Oui, évidemment, sauf que ce prix, c'est un prix factice, c'est comme le prix des VTC, c'est pas le prix de la course en voiture, en berline noire, ou la rémunération de, comment dire, le prix de la livraison du burger qui permet aux plateformes de gagner de l'argent. C'est pas là-dessus qu'elles gagnent de l'argent. Non seulement elles en gagnent pas, mais en plus elles en perdent. Ce sur quoi elles sont valorisées, c'est sur les velléités hégémoniques de monopolisation, c'est-à-dire un jour d'avoir en effet la majorité, si ce n'est la totalité, des restaurants parisiens ou versaillais ou d'Angers, de Tours, de Clermont-Ferrand, puisqu'elles se répandent de ville en ville, d'avoir la totalité des plateformes des restaurants sur une seule plateforme, qui permettra ce jour-là potentiellement de réaugmenter les prix, parce que là, il s'agira de gagner de l'argent. Pour l'instant, elles n'en gagnent pas. La valeur de ces plateformes-là, en plus d'être sur cette vision à moyen et long terme qu'elles vendent aux investisseurs, aux capital risqueurs, aux business angels, aux VC, les ventures capitalistes, c'est les termes. Voilà, c'est visé qu'elles vendent. Elles vendent aussi, alors évidemment, ça, personne ne vous le dira jamais, ce qu'elles vendent, c'est non pas le service, VTC, livraison à vélo, mais la servitude, en fait, que ça met en place. Parce qu'on est tout doucement, je vous parlais du travail à la tâche qui avait été aboli, en fait, ni plus ni moins par le salariat, on est ni plus ni moins vers un retour au 19e siècle qui fait qu'en effet, ces travailleurs indépendants, qui ne sont que pour l'instant que des chauffeurs VTC, que des livreurs à vélo, mais qui commencent déjà à être des nounous, des femmes de ménage, des cuisiniers à domicile, qui font des lasagnes et puis qui les vendent sur des plateformes, ou alors des micro-travailleurs, des micro-bricoleurs qui vont travailler sur des plateformes, qui vont mettre en place ce système de plateformisation. Maintenant, vous n'aurez plus un plombier avec votre numéro accroché sur le frigo qui vous coûtera 150 € parce qu'il a tout un tas de frais, des employés à faire vivre. Maintenant, vous aurez votre voisin, 2-3 km, qui va venir sur son vélo ou sur sa mobylette pour vous réparer votre frigo pour 15 ou 20 €. Cette personne-là ne pourra pas en vivre. La seule personne qui pourra en vivre, c'est la plateforme qui prendra sur ces 15-20 € une rente qui permettra de faire tourner ces machines, ces ordinateurs, pour organiser cette logistique, mais c'est surtout qui permettra d'aller acquérir du capital risque via des levées de fonds qui permettront doucement, parce que les levées de fonds, faut pas se leurrer, hein, c'est des gens hyper libéraux qui ont pour finalité de casser le coût du travail. Et pas simplement le coût du travail en France. Ben, il se trouve qu'en France, en effet, le travail a un prix, j'ai pas envie de dire un coût, un prix, le prix de notre qualité de vie, ni plus ni moins. Et évidemment qu'en France, on est les premiers impactés par ce contraste, en fait, entre le coût du travail salarié et le coût du travail indépendant. C'est pour ça qu'on... sur nos vélos, les livreurs à vélo sont un symbole parce que on voit bien jusqu'où est capable de se mettre en place un système désocialisant, puisque un livreur à vélo, enfin je le dis souvent, je l'ai fait pendant 2 ans, c'est pas pour victimiser ces gens-là, les livreurs, mais ça reste un des métiers les plus dangereux qui soient en ville, quoi. Je parle pas de métiers pompiers, de choses comme ça, mais c'est un des métiers les plus dangereux qui soient parce qu'à chaque carrefour, on relance les dés. Les dés de notre vie, les dés de notre santé, les dés de notre intégrité physique. Les plateformes, elles n'ont aucune responsabilité. Enfin, elles avaient aucune responsabilité, puisque bon, tout, comme je vous disais tout à l'heure, tout est question de leur faire prendre quand même une certaine part de responsabilité. On l'a vu par rapport à la loi travail, qui, j'ai découvert ça l'année dernière, pendant la mise en place de cette loi travail. Cette loi travail qui, bon, est hyper prédatrice pour le salariat, a décidé de s'occuper de nous, les travailleurs des plateformes numériques, alors qu'on était censé être des travailleurs indépendants. Je nous ai trouvé un paragraphe dans la loi travail qui traitait des travailleurs des plateformes numériques. Qu'est-ce que ça veut dire implicitement, si ce n'est qu'on est quelque part des salariés ? Il s'agit juste qu'un jour, un juge ait le courage de dire « bah oui, en effet, c'est des salariés ». Même si les plateformes se battent via la liberté qu'on a de choisir quand on peut travailler, certes, on peut choisir quand on peut travailler, et encore de moins en moins, parce que les plateformes mettent en place des systèmes qui font qu'il faut correspondre à certains critères au niveau des notes, au niveau de notre valeur, qui est définie par tout un tas de données qu'on donne à manger à la plateforme via notre téléphone, quand on avance, en fait, quand on récupère des commandes, quand on livre, quand on finit la commande, à chaque fois, on clique sur « j'ai récupéré le truc »,« j'avance »,« je finis », »,« je voilà ». Tout ça, c'est des données qui font qu'on est une donnée statistique qui, au sein de la plateforme, utilise pour nous classifier. De cette classification, et c'est notamment le cas chez Deliveroo, puisque c'est eux qui sont à la pointe de cette normalisation, de cette statification, je ne sais pas si ça se dit, oula, toutes ces données permettent donc de nous classer et de nous donner accès à un certain niveau. Voilà, on a accès à certaines heures à la plateforme. Les mieux notés, donc ceux qui fonctionnent le mieux avec l'application, avec les horaires, ceux qui travaillent le week-end, parce que c'est une des données principales de classification, de valorisation, ceux qui travaillent le week-end, le samedi, dimanche, ont accès à la plateforme le lundi à 11h. Et donc, le lundi à 11h, se construisent leur semaine de travail. Alors oui, en effet, quand ils veulent. Ça, c'est pour ceux qui sont à 11h, qui travaillent bien. Ensuite, on a ceux qui ne travaillent pas le week-end, ou alors ceux qui ont eu un petit accident, ceux qui ont eu un bobo, ceux qui n'ont pas été à une session de travail sur laquelle ils s'étaient inscrits, la liberté soi-disant. Alors eux, ils ne sont pas à 11h, ils sont à 15h. Alors eux, ils arrivent à 15h, alors tous les gens qui travaillent à 11h ont construit leur semaine, donc à 15h ne restent que les miettes, en fait, les créneaux qui ne permettent justement pas d'avoir accès à une classification telle qui nous amènerait à être dans les bons classements. Donc à 11h, c'est comme ça qu'on se classifie maintenant dans la rue. Avant c'était « Ah tiens, tu travailles depuis combien de temps chez Deliveroo ?» Maintenant c'est « T'es à quelle heure ? T'es à 11h, t'es à 15h, t'es à 17h ?» C'était voilà, t'es bien placé, t'es mal placé ou t'es le dernier, ou tu es la lie des livreurs à vélo. Donc maintenant voilà, à 15h, typiquement c'est la double peine, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès au créneau valorisant du week-end, donc on récupère les miettes, donc ou alors on est à 15h, au mieux, ou alors pire, on peut passer à 17h. Et 17h, c'est les pestiférés, c'est les intouchables, c'est les gens, presque les gens dont on ne prononce pas le nom, parce que quand tu es à 17h, tu es pire que rien, c'est-à-dire que tu es le mauvais élément, alors qu'on est des travailleurs indépendants, je le répète, les plateformes le répètent, on est des travailleurs indépendants. Mais tout est fait pour que Deliveroo, et puis tout un tas de plateformes vont commencer à travailler comme ça. On le voit, il y a une plateforme qui s'appelle Stuart. Alors Stuart, on n'en entend pas beaucoup parler, elle n'est pas à Versailles. On n'en entend pas beaucoup parler. Stuart, c'est une plateforme française. Elle a été créée par deux Français, deux copains. La Poste, le groupe La Poste a pris des parts, a pris 20% l'année dernière de la plateforme Stuart. Parce que Stuart, ils ne font pas que de la bouffe, en fait. Stuart, ils font aussi du pli, des colis, des choses comme ça, du tout un tas de petits commerces. On peut se faire livrer ses clés, machin, j'ai oublié mes clés, le téléphone. Et donc, La Poste a pris 20% de Stuart l'année dernière, histoire de voir un petit peu comment ça marchait, parce que ça avait l'air intéressant, système de bosser avec des indépendants. Hein. Et puis, cette année, La Poste a racheté tout, quoi. La Poste a racheté Stuart en totalité. Ce qui fait que maintenant, on se retrouve avec des auto-entrepreneurs en bleu qui vont dans les locaux de La Poste. Alors, il se trouve que j'ai des camarades syndicalistes à La Poste et qui disent, c'est quoi, on a tes potes là qui viennent de Stuart, c'est quoi ça? Les mecs, on les voit à faire du tri. Les auto-entrepreneurs se retrouvent à La Poste à faire du tri en attendant qu'ils aient potentiellement une tournée à faire. Alors une tournée, attention, pas une tournée de facteurs, hein, une tournée de choses qui n'ont rien à voir avec du courrier. Alors ça va être du colis, du DHL, des choses comme ça, des choses qui ne rentrent pas dans les... C'est plutôt du chronopost, on va dire. Voilà, bah, chronopost, c'est La Poste, mais bon, comme c'est plus La Poste, les facteurs fonctionnaires, voilà, tout un tas de micmacs sont faits à La Poste pour un petit peu... on va dire cloisonner les choses. Et donc, on voyait, il n'y a pas longtemps, il y avait un reportage télé qui parlait de La Poste qui va expérimenter la livraison de choses le dimanche. Alors, ce n'était pas La Poste, c'était Chronopost. Alors, pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est que Chronopost, visuellement, tout est une question d'image, Chronopost, ils sont en bleu, ils ne sont pas jaunes, et puis leur logo, c'est un cube. Stuart, ils sont en bleu, et leur logo, c'est un cube. Ce n'est pas le même cube, hein. Mais vous voyez où je veux en venir. C'est doucement La Poste. On imaginait, même moi encore, il y a encore quelques temps, j'imaginais le facteur protégé fonctionnaire. Alors, j'ai appris que c'était loin d'être le cas depuis presque 20-25 ans. Tout doucement, on se dirige vers une mise en place, notamment à La Poste, de travail indépendant qui va être chronométré, classifié, normalisé pour avoir accès à ce travail ou pas selon des critères qui sont tout sauf sociaux, en fait. Alors déjà, les critères ne seront pas sociaux et puis les protections ne seront pas sociales. Je parle un petit peu vite fait des protections sociales. Alors, je disais tout à l'heure que la loi travail, donc Valls, El Khomri, Macron, Hollande, tout ça, ont commencé à se pencher sur la loi travail et à mettre en place des obligations pour les plateformes. Parce que cette politique, ces politiques, ce ne sont pas, comment dire, prononcés sur le fait que c'était du salariat déguisé ou pas. Ils ont préféré dire, bon, on ne sait pas trop ce que c'est, ça reste moderne, ça reste potentiellement quelque chose de moderne, donc de, non pas progressiste, mais d'avenir. Donc on va essayer d'encadrer ça. Alors oui, en effet, il y a des protections à minima qui ont été mises en place via Deliveroo, via toutes les plateformes maintenant ont un système d'assurance complémentaire accident qui a été pour la plupart travaillé avec AXA. On connaissait les accointances d'AXA avec le monde politique. C'est pas ici que je vais l'apprendre. Mais il se trouve qu'AXA, oui, c'est vrai qu'elle récupère un petit peu la manne des protections sociales des travailleurs indépendants. Alors évidemment, tout est question de travailler sur des protections sociales à minima, malgré les risques des livreurs à vélo dont je vous parlais tout à l'heure. Malgré les risques des livreurs à vélo, hein, je vous disais qu'on est quand même hyper exposé. On a des protections à minima, oui, c'est vrai, on a des protections à minima. Mais pour des risques qui sont pris, eux, à maxima. Quand on est payé à la course à vélo dans Paris, je vous garantis qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, quoi. On n'a pas le temps de s'arrêter, et voire même quand on est en course, donc quand on est payé, on se dépêche de la finir pour potentiellement se libérer via l'application. Hop, j'ai livré, c'est bon, je suis disponible pour une autre course. Donc on se dépêche, donc on roule vite, parce que quand on attend la course entre deux, on n'est pas payé. Et quand vous partez de Montparnasse, rue de la Gaîté, ou la mode, enfin ouais. Enfin, vous partez de Montparnasse, les restaurants, vous allez livrer, porte devant, là vous êtes payé. Mais vous arrivez porte devant, vous livrez, bonjour madame, au revoir madame, vous remontez sur votre vélo, puis là il n'y a pas de commande. Parce que porte devant, il n'y a quasiment pas de resto, donc il faut revenir à Montparnasse. Et Montparnasse, porte devant, là pour le coup vous n'êtes pas payé. Vous n'êtes pas payé et vous pouvez quand même avoir un accident, d'autant plus que vous revenez vite, quoi. Vous essayez de revenir le plus vite possible pour avoir justement accès à cette commande. Jusqu'à une certaine époque, on était payé à l'heure. C'est ce qui m'avait fait d'ailleurs rentrer dans la société, dans la plateforme Deliveroo, parce que c'était la première plateforme qui proposait une tarification à l'heure. Je m'étais dit, super, eux, ils ont compris. Jusqu'à présent, j'avais travaillé pour des plateformes qui payaient à la course. Elle est une plateforme payée à l'heure. Je me dis, ouais, bah, eux, OK, ils ont l'air d'être raccord. Jusqu'à ce que l'année dernière, le leader du marché qui s'appelait Take It Easy, qui était une plateforme belge, s'est pété la figure parce que plus de sous. Ces plateformes-là ne gagnent pas d'argent, je vous le disais, elles vivent de levées de fonds. Donc, quand Take It Easy, une petite start-up belge, levait 15-20 millions, parce qu'on parle en millions, on ne va pas au Crédit Agricole pour lever 10 000 balles, on parle de millions. Ben, quand Take It Easy levait 10-15 millions, Deliveroo, en face, une grosse machine britannique, la même chose, hein, qui proposait aussi de la livraison de restaurants, eux, ils levaient 150 millions. Alors évidemment que Take It Easy, la petite plateforme belge, au bout d'un moment, ils cherchaient des investisseurs, ils n'en avaient plus parce que les investisseurs, ils préfèrent mettre leurs billes dans les gros plutôt que sur les outsiders, ils ont fermé. Quand Take It Easy a fermé en 2016, ils avaient 4500 livreurs en Europe, parce qu'on parle d'un marché européen, ils avaient à peu près autant de restaurants, des milliers de restaurants, ils n'ont payé personne en fait, ils ont fait faillite, une faillite à l'américaine presque. On est une start-up, on n'a plus de levée de fonds, donc on n'a plus d'argent, donc on ne peut plus payer qui que ce soit. Donc évidemment, les livreurs ne se sont pas fait payer. Il a fallu qu'on engage quelques procédures au prud'homme pour essayer de se faire reconnaître comme des salariés, donc non pas comme des travailleurs, comme des commerçants, quoi. Ce qu'on appelait on est devenus des créanciers chirographaires. Alors, il a fallu que j'apprenne ce que c'était. Un créancier chirographaire, c'est le petit fournisseur, le petit commercial avec lequel travaillait cette boîte-là qui a fait faillite. Et comme c'est le dernier des créanciers, c'est pas l'URSSAF, enfin, évidemment, c'est pas les salariés qui sont quand même vachement protégés en cas de faillite. Et ben, le créancier chirographaire, grosso modo, il a rien à la fin, donc il perd tout. On a fait des procédures au prud'homme pour essayer de faire valoir qu'on était des salariés. On s'est juste retrouvé au prud'homme face à l'agence, à l'AGS, l'agence de garantie de salaire, qui, au niveau du prud'homme, est un petit peu le chevalier blanc, parce que les AGS sont eux, justement, qui payent les salaires en cas de faillite. Et donc, c'est ces gens-là, en face de qui on s'est retrouvé, qui avaient beau jeu de dire, non, vous êtes des indépendants, vous n'avez jamais cotisé, justement, votre entreprise n'a jamais cotisé aux AGS, du moins pour vous, pour les quelques salariés qu'ils avaient, si, mais pas pour vous, donc on ne veut pas payer quoi que ce soit. Et donc, une procédure s'est fait débouter et une procédure est en attente de départage. Tout ça pour dire que voilà comment ça se passe, une faillite dans l'ubérisation. Grosso modo, personne, et notamment les travailleurs, ne sont payés. Les restaurants non plus n'ont pas été payés. On parle d'une faillite à hauteur de 20 millions d'impayés. Donc voilà, 20 millions qui quand même avaient été encaissés par Take It Easy, puisque les plateformes fonctionnent de telle façon que le client commande à la plateforme, il paye à la plateforme, qui ensuite redonne au restaurant et puis aussi au livreur. Ce qui fait qu'en fin de compte, la plateforme n'arrive pas à gagner d'argent comme ça. C'est pas comme ça que ça marche, parce que le service, tout ce qui est frais fixes, coûte beaucoup plus cher que ce qu'elle ne gagne. Mais j'expliquais tout à l'heure qu'elles vivent avec des levées de fonds. Deliveroo a levé plus d'un milliard en 4 ans. Un milliard pour livrer des burgers qu'on sait ne pas être rentable, en fait. Investir des milliards, parce que bon, je ne parle pas d'Uber. Uber, c'est 60 milliards de valorisation. Une valorisation qui repose sur des services qui ne rapportent pas d'argent, il faut se poser la question de savoir qu'en effet, l'objectif économique, sociétal, il est ailleurs. L'ubérisation, c'est ça, en fait. J'avais envie, quand j'ai vu la scène, quand j'ai vu les rideaux, j'avais envie de commencer tout à l'heure comme Lepage en disant « ceci est un poireau ». En fin de compte, quand je vous parle de libéralisation, c'est ceci est une carotte, mais une carotte monumentale, parce qu'on ne parle plus en effet de baisse des charges sociales, des cotisations sociales. On ne parle plus d'une baisse de charges, baisse des cotisations patronales, par exemple, qui est le fer de lance de toutes les entreprises. Là, on parle d'une disparition complète, en fait, des cotisations patronales. Et puis, des cotisations sociales liées aux revenus du travailleur, qui, évidemment, sont minimales. La question qui s'est posée, enfin, le sujet qu'a lancé Emmanuel Macron l'année dernière, parlant du RSI, des indépendants, de ces fameux travailleurs qu'on avait du mal à identifier, les gens que nous sommes, en fait, il s'est dit, oui, mais bon, on va mettre du chômage, on va donner du chômage à tout le monde, la retraite est aussi dans les cartons pour que tout le monde ait la retraite. Les travailleurs indépendants réels, les artisans, commerçants, ils n'en veulent pas. Ils ont du capital, ils ont un pas de porte, ils ont une licence, ils ont un carnet client à pouvoir revendre, à pouvoir valoriser quand ils arrêtent leur activité. Nous, on n'a rien. on n'a rien à revendre, en fait. Donc les indépendants, ils s'en fichent d'avoir du chômage ou de la retraite, parce qu'ils capitalisent comme ça depuis des années. Et mine de rien, ils ont toujours quelque chose à revendre, et c'est comme ça que ça marche. Mais si on essaye de mettre en place un système social pour les travailleurs indépendants que nous sommes, c'est déjà pour viabiliser ce système de travail désocialisé, enfin désocialisé ou socialisé à minima, j'ai envie de dire. Et puis surtout, on ne sait pas comment financer ça, en fait. Macron a lancé le truc, on va donner le chômage et la retraite à ces gens-là, sauf que moi, je me suis retrouvé ensuite dans des groupes de travail, dans des commissions, où la question, c'était... les gens qui étaient en face de moi, qui étaient censés travailler, enfin, l'IGAS, l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, enfin, je me suis retrouvé face à des gens qui se posaient la question de savoir comment est-ce qu'ils allaient financer ce qu'avait dit notre prince-ident, je l'appelle le prince-ident, parce qu'il a plus une tête de prince que de... Ils ne savent pas comment on va faire. Et tout va être question de savoir comment est-ce qu'on va faire, parce que de toute façon, c'est sûr que si les indépendants, entre guillemets, avec des énormes guillemets qu'on est, n'arrivent pas à se faire requalifier, continuent, se développent, il va y avoir un problème au niveau de tout ce qui est protection sociale. On va être un espèce de cheval de Troie dans toutes ces caisses en fait, compte de cotisation, que ce soit la retraite, la sécu ou le chômage. Il faut faire très attention à ça, puisqu'on l'a vu par rapport à une étude du Conseil d'État qui a travaillé sur le sujet. Tout le monde travaille sur nous en ce moment. Donc le Conseil d'État aussi. J'ai été auditionné avec 150 autres personnes pour ce que c'était, justement, que ces plateformes numériques, ce que c'était que cet avenir, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, comment il fallait le voir, comment il fallait étudier le truc. Le Conseil d'État a rendu un rapport qui dit qu'en effet, une certaine forme de plateforme, pas toutes, parce que certaines reposent sur un modèle quasi féodal, donc là j'espère qu'il parlait de nous, enfin, par rapport à tout ce que je l'ai raconté, mais bon, on voit bien qu'en fin de compte, la plateformisation est quelque chose qui, même au niveau du Conseil d'État, n'est pas complètement noir, en fait, et pourrait être, en effet, une forme de travail d'avenir. Et le Conseil d'État va même, je terminerai là-dessus, sur le Conseil d'État, d'aller vers une délégation de mission de service public via des plateformes. Alors, tout est question, justement, avec mes camarades du CLAP et de tout un tas de gens, de faire en sorte de montrer ce que c'est que cette plateformisation, de montrer ce qu'il faut faire, et surtout, ce qu'il ne faut pas en faire. Alors, c'est vrai que je disais que j'allais terminer là-dessus, sur le Conseil d'État, mais je ne peux pas terminer, même si on aura peut-être d'autres échanges, sans parler de l'avenir, de ce qu'on essaye de mettre en place au niveau pratique, en fait. J'ai presque envie de dire pragmatique, même si c'est presque devenu un gros mot libéral. Pragmatique, en fin de compte, les plateformes, c'est une application qui fonctionne sur un site Internet, sur des serveurs, qui fonctionne sur un téléphone. C'est pas très compliqué, en fait. On n'a pas les mêmes problématiques que, par exemple, les entreprises, des usines, des fabriques qui voudraient être récupérées par des travailleurs suite à un échec économique, enfin une faillite ou que sais-je. Alors, on voit que ça existe quand même, les coopératives qui reprennent des entreprises. Alors, avec plusieurs personnes, je ne suis pas tout seul, on a décidé de travailler sur un projet qui est de faire une plateforme comme Deliveroo, comme Stuart, dont je parlais tout à l'heure, ou comme Uber, mais qui serait une coopérative, en fait. Parce que Dieu sait que s'il y a quelque chose qui est facile maintenant, à notre époque, à partager, c'est de l'information, c'est de la donnée. Il s'agit juste de fabriquer des applications qui permettent à des gens, justement, de se mettre en relation. Un petit peu comme on l'a vu sur le modèle des AMAP, qui ont un petit peu reconstruit des schémas de distribution en circuit court. Ben nous, on veut essayer de faire un espèce de circuit court de la mise en relation de travailleurs. Et notamment, on travaille sur les livreurs, mais ça peut se diversifier à tout un tas de travail de secteurs de l'économie ubérisables, parce que Dieu sait que c'est en chemin, l'ubérisation de tout un tas de choses. Donc voilà, le projet qui s'appelle COPCycle, COP comme coopérative, et Cycle, évidemment, comme Cycle, est une application à visée coopérativiste, et non pas coopérativiste, parce que c'est tout un mouvement, en fait, avec lequel on travaille, des gens avec qui on prend contact au quotidien, de semaine en semaine, de mois en mois, ça fait un an qu'on travaille. Voilà, on s'aperçoit bien qu'il y a une réelle volonté. Je parlais tout à l'heure des gens, des clients qui se font livrer le marché qui a été mis en place, factice, avec ce fameux prix de 2,50 €, on voit bien qu'il y a tout un tas de gens qui ont pris conscience qu'en effet, on pouvait se faire livrer, mais de façon éthique, comme on a vu le commerce équitable, avec des fois des limites au niveau de l'éthique qu'on peut connaître. On voit bien qu'il y a une réelle volonté, on le voit, des commerçants qui ont pris conscience de ce que c'était que l'ubérisation. Ils voient la prédation au niveau des livreurs. Et puis surtout, ils commencent, certains restaurateurs aussi commencent à prendre conscience du poids que l'application Deliveroo, les autres, Foodora, Stuart, peuvent avoir sur leur chiffre d'affaires. Alors, ils leur offrent du chiffre d'affaires. Les commerçants se rendent compte de plus en plus qu'ils n'arrivent pas à marger, à faire de marge sur ce chiffre d'affaires, parce que la plateforme prend trop cher, en fait. Hein. Et puis, mine de rien, produire du burger dans une cuisine, ben, ça demande des salariés en plus, parce que pour le coup, on ne peut pas encore travailler avec des cuisiniers auto-entrepreneurs. Un jour, peut-être, tout mon travail est de faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, l'ubérisation, le chiffre d'affaires qu'offre l'ubérisation ne permet pas de marger. Donc prennent conscience que peut-être bosser avec une coopérative au sein duquel ils pourraient avoir un rôle, puisqu'on travaille sur un système de super coopératives, on peut dire ça, des SCIC, des sociétés coopératives d'intérêt public, qui sont au monde coopératif, au monde de l'ESS, l'économie solidaire et sociale, un petit peu ce que le partenariat public-privé est à l'économie classique, voilà, qui permet dans une coopérative qu'une collectivité territoriale, qui a tout intérêt à s'investir là-dedans, parce qu'on est sur un marché local, avec des livreurs locaux, avec des clients locaux et des commerçants locaux, et tout un tas de résurgences, en fait, de ruissellement, justement, pour le coup, social. C'est en cela que le mot est joli, quand il est associé au mot social, de ruissellement social. Les collectivités territoriales, voilà. Paris, pleine commune, se penchent sur la question de participer activement, pragmatiquement à l'essor de ce projet COPCYCLE, et puis j'espère d'autres projets dans d'autres secteurs d'activité. Voilà, les coopératives, je vais terminer là-dessus plutôt que le Conseil d'État, les coopératives sont à mon sens, et de plus en plus partagées, sont à mon sens la réponse et l'avenir très très probable à ce qui est cette désocialisation du travail qu'on va, nous, via des coopératives, essayer de resocialiser. Il faut savoir que COPCYCLE, c'est une quinzaine de personnes qui travaillent au quotidien, toute la journée, bénévoles. C'est des salariés, c'est des gens qui ont des ACEDIC, et ce qui leur fait bien comprendre d'ailleurs ce que c'est qu'un salaire, parce que sans ces ACEDIC, sans ces indemnités chômage, ben, ils ne pourraient pas travailler sur ce projet. C'est assez drôle en plus de se dire que grâce à leur salaire, et puis au salaire des gens qui continuent, eux, à travailler pendant qu'eux sont au chômage. Certains même ont arrêté de travailler pour développer COPCYCLE. Grâce au salaire, on permet, voilà, une resocialisation du travail que l'ubérisation, elle, s'acharne depuis plusieurs années à désocialiser. Voilà.
Merci. Alors, juste peut-être pour faire l'introduction, avant qu'il y ait une première question, il faut que tu nous racontes comment tu as été... Alors, on peut pas dire licencié, parce que tu n'étais pas salarié. Comment tu as été déconnecté de ça, tu nous as pas raconté, puisque c'est pas de... Voilà, c'est... Oui, tu travailles plus chez Deliveroo.
Oui, j'ai appris à pas trop parler de moi, parce que ça touche suffisamment de monde pour que, bon, un petit peu dépersonnaliser le combat. Grosso modo, oui, comment ça se passe quand on est déconnecté, parce qu'on est évidemment, on n'est plus licencié. C'est un mardi, je m'équipe pour aller bosser, et puis je reçois un coup de téléphone. Alors, il faut savoir que c'est en 2016, on est en mars 2016, on est le 24 mars 2016, c'est là qu'est né un petit peu le début de la révolte. Le 18 mars, il y a une émission de France Culture qui a été diffusée, voilà, c'est je ne sais plus quelle heure, ça s'appelle Les Pieds sur Terre. Et j'ai été interviewé au mois de février, donc quelques temps avant, par une journaliste qui voulait me faire raconter un petit peu ce que c'était que ce travail, en fait, de livreur à vélo. Je raconte un petit peu comment je travaillais, de façon très très technique, hein, très très, c'est les pieds sur terre. Donc voilà, on ne parle pas d'idéologie. Et puis d'ailleurs, à l'époque, je ne parle pas encore d'idéologie, parce que je n'ai pas pris vraiment encore la mesure de ce que ça va être, l'ubérisation. Donc je vais expliquer ce que c'est. L'émission est diffusée le vendredi 18. Le 24, ouais, le 24, enfin le mardi suivant, je reçois un coup de téléphone de Deliveroo Jamais Deliveroo appelle ses livreurs. C'est déjà compliqué, nous, livreurs, de les avoir au téléphone quand on a un souci. Hein, tout est question justement de se déresponsabiliser. Donc, moins elles ont les livreurs en face problème, mieux c'est pour eux. Et là, j'ai un numéro de téléphone qui s'affiche. Alors, il y avait marqué, parce que je l'avais enregistré, Ellie de Deliveroo, qui se trouve être le numéro 3 de la boîte. Donc, c'est pas n'importe qui. Mais bon, comme à l'époque, c'est encore une petite start-up, le type m'appelle, dit « Ouais, salut Jérôme, en mode cool. Salut Jérôme, ouais, je voulais te dire, je t'appelle. Alors déjà, t'es un super mec. Je l'ai dans mon téléphone, je pourrais vous le faire. Mais bon, je vais vous le raconter. T'es un super mec, t'es super sérieux dans ton boulot, bla, bla, bla. OK. Déjà, quand le mec t'appelle pour te dire ça, tu dis « Je sais pas, j'ai... » Voilà. Je dis ok, d'accord. Mais bon, tu comprends, on a décidé qu'on allait mettre fin à notre relation de travail, notre collaboration, parce que tu comprends, t'as disparu pendant des semaines. Oui, j'ai disparu en effet entre le mois de décembre et le mois de février. J'ai disparu de la plateforme, tout bêtement, parce que je me suis démonté l'épaule en fait en ouvrant une porte cochère, le truc bête, un accident est rarement intelligent. Donc on appuie sur les boutons, c'est notre boulot. Tu appuies sur le bouton, tu tires la porte, et puis à part, il y a des grosses portes bien lourdes. Donc on apprend à appuyer sur le bouton et à tirer un grand coup sur la porte. Donc un jour, j'appuie mal sur le bouton, mais je tire correctement sur la porte de façon à ce que ce ne soit pas la porte qui s'ouvre, mais c'est mon épaule qui lâche. Donc j'entends un truc. Je rentre chez moi tant bien que mal. Le lendemain matin, je me réveille et j'ai l'épaule qui est bloquée. Donc je vais pas bosser, je leur envoie un petit mail, bon ben voilà, j'ai eu un accident, et comme ça se passe à chaque fois sur les plateformes, ok, bon rétablissement. Bah, tu m'étonnes, ils s'en fichent, on leur coûte rien quand on bosse pas. Donc ok, bon rétablissement. Bon, et puis j'arrête de bosser pendant 6 semaines, je sais que ce que j'ai, je me la suis remis en fin de compte, un petit peu dans le réflexe, tout bêtement, dans un geste, je me la suis remis sans le faire exprès, donc c'est pour ça que j'ai l'épaule qui s'est déboîtée, mais c'est juste, on va dire, c'est les tendons en fait qu'ont besoin de se reposer, donc je m'arrête pendant 6 semaines. Je remonte sur mon vélo au bout de 6 semaines, en mars, je travaille pendant presque un mois, jusqu'à ce que le type m'appelle un mois après que j'ai rattaqué, pour me dire que grosso modo, il me désactive parce que j'ai arrêté de bosser pendant 6 semaines. Et là, je lui explique, en fait, quand j'ai eu un accident, je lui explique que je lui ai envoyé un mail, et il dit « Ah ouais, non, j'étais pas au courant de ça ». Alors évidemment, c'est les fameux bugs de communication, les bugs d'application, les plateformes se reposent tout le temps derrière le bug. Le bug, c'est l'espèce de... C'est le méchant en fait qui oh là là, c'est le grain de sable qui en plus, comme c'est un bug, c'est pas Ginette à la compta ou c'est pas Maurice au magasin qui s'est planté, c'est le bug. C'est bien, on peut taper sur personne. Ah ouais, bah écoute, je sais pas, j'ai pas été au courant. Je dis bon, bah écoute, ta lettre recommandée qui vient me dire qu'il m'avait envoyé, que j'ai pas reçu parce que j'ai passé 4 jours chez mon ami. Je lui dis bah, écoute, ta lettre, je la prends, je la déchire en fait, c'est comme si que tu m'avais pas appelé. Il me dit ah ouais, mais non, il y a pas que ça. Je dis d'accord, il y a que d'autres. Il me dit ouais, mais c'est parce que tu comprends. Le type, il mouline. Tu portes pas le branding. C'est quoi le branding? Le branding, c'est la veste en fait. Parce que quand on roule pour Deliveroo, on a le sac Deliveroo, le gros cube Deliveroo, on a la veste Deliveroo. Et il faut représenter la marque. On est indépendant, mais on a quand même la marque partout sur soi. Sauf qu'on gagne pas des millions comme les sportifs, hein, mais voilà, on gagne des clopinettes. Mais bon, on est indépendant, on a la marque et il faut la porter parce que si on la porte pas, voilà, on se fait déconnecter. Voilà, donc Jérôme, on te déconnecte parce que tu portes pas le branding. Et là, je lui dis, sauf que voilà quoi, sauf que tu me dis ça à moi, ça fait déjà un an que j'ai pris conscience de ce qu'était la subordination, qu'on pouvait faire des choses avec des indépendants, mais pas d'autres. Et je lui dis, donc, t'es en train de me virer, moi, parce que je portais pas une veste, qui est un indice de subordination. Et là, je lui parle de prud'homme, je lui parle de requalification, je lui parle d'indemnité, même pas d'indemnité. Et je vois bien que le type, en fait, il s'en fiche, quoi. Le type, limite, il rigole au téléphone parce qu'il sait très bien que même si je le fais, même si je vais au prud'homme, il s'en fiche. Parce que, ou alors je gagne au prud'homme. Enfin, ou alors déjà je perds, donc déjà voilà. Ou alors je gagne au prud'homme. Alors déjà, les prud'hommes, j'ai fait une première procédure contre une autre société qui s'appelait Toc Toc Toc. La première, dès que j'ai su que voilà, j'étais un petit peu dans du salariat déguisé, j'ai fait une procédure. J'ai attaqué en décembre 2014. J'aurai une réponse. Ça a été reporté déjà pour la première instance. Ensuite, on a plaidé. Ça a été reporté en départage. départage. C'est qu'en fait, les quatre conseillers prud'homaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ils ont fait 2-2, en fait. Donc, il faut qu'ils convoquent un juge, un cinquième juge. C'est un peu les tirs au but, en fait, pour qu'il y ait un cinquième qui dise oui, ben non. Donc, on va replaider avec une vieille affaire. En plus, c'est un truc qui a 3 ans. Donc, je suis passé à autre chose. Enfin, j'ai changé, on va dire, d'échelle. Mais tout ça pour dire que le temps juridique, la dimension, la temporalité juridique est telle que les livreurs ont tous sauf envie d'aller au prud'homme, quoi. Même si potentiellement, avec un bon avocat, avec un beau dossier, avec des preuves, avec des pièces, ils peuvent gagner, mais les jeunes, ils sont pas là pour être qualifiés, ils sont là pour gagner de l'argent, quoi. Et donc déjà, un avocat, ça coûte de l'argent. Donc, bon, j'ai toutes les peines du monde de leur faire comprendre ça. Et puis, vous savez quoi, j'ai même plus envie de leur faire comprendre qu'il faut aller au prud'homme. C'est pour ça qu'en fin de compte, on a attaqué avec les différents collectifs nationaux. Il y en a à Lyon, il y en a à Bordeaux, il y en a un peu partout. Il y en a partout en Europe parce qu'il y a des chiffres. Ouais, je vous ai pas donné les chiffres tout à l'heure, mais je vous les donnerai tout à l'heure. Je vais les garder pour la fin. On a préféré agir dans la rue plutôt que dans les tribunaux parce que voilà, organiser une manif, c'est du travail. Mais c'est 1-2 semaines de travail. Les tribunaux, c'est 2-3 ans au mieux, voire 4, voire 5 ans, 6 ans. Et puis on peut aller jusqu'en appel, jusqu'en cassation. Vous imaginez bien, les mecs, ils veulent juste faire du vélo, quoi. Ils veulent pas se casser les pieds dans des tribunaux avec des avocats, machin, ceci, cela, quoi. Il y a moi, je le fais parce que, bon, à la limite, bon, voilà, je connais un avocat qui m'a permis de le faire. Tout ça pour dire, voilà, comment ça se termine et comment surtout les plateformes s'en foutent complètement des prud'hommes, quoi. C'est une espèce de... Le type, quand j'ai commencé à lui parler, avant que je lui parle des prud'hommes, il était tendu parce que j'étais un petit peu énervé. Quand j'ai commencé à lui parler de prud'hommes, j'ai vu qu'il commençait à rire. C'est là que je me suis dit, ouais, d'accord. Eh ben, on va vous avoir autrement. Et c'est pour ça qu'on a créé les collectifs, au fur et à mesure, ça s'est fait dans le temps, pour aller les choper dans la rue et surtout sur les réseaux sociaux. Je le dis souvent, Twitter, Facebook sont un champ de bataille à ce niveau-là. Et des fois, je rencontre des syndicalistes qui ont toutes les peines du monde, en effet, à amener des gens dans les manifestations dans la rue. Je leur dis, ouais, allez dans la rue, mais surtout, investissez les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, en effet, c'est des outils hyper capitalistiques. Ça vaut des milliards. Sauf que c'est encore relativement libre au niveau de la parole. On le voit bien par rapport des fois à Twitter, qui permet un petit peu de raconter n'importe quoi. Sauf que faire du buzz sur Twitter... Et ça vaut presque une manif et une occupation de locaux. Il y a Aziz qui est c'est un livreur. Il a eu un accident il y a un mois et demi. Il est tombé sur son guidon. Il a une double de perforation. Coulon pancréas. Alors c'est l'accident. Il y en a pas des masses comme ça, mais c'est l'accident bête. En fait, il est tombé sur son guidon. Voilà, perforation, hôpital. Et il a eu la chance entre guillemets. D'avoir cet accident-là juste après que Deliveroo ait communiqué sur le fait qu'ils avaient mis en place une assurance pour les livreurs, ce qu'il n'y avait pas jusqu'à pendant 3 ans, il n'y avait pas de ça. Et donc il a fait marcher l'assurance AXA Deliveroo. Alors pendant une semaine, AXA l'a baladé de service en service. On vous rappelle, il ne rappelait pas, donc c'est lui qui rappelait. Bon, bref, ça n'avançait pas. Il a contacté le CLAP par notre page Facebook. On a une page Facebook. Avant, c'était une antenne locale, une union locale. Maintenant, on a une page Facebook. Et il nous a contactés. Je suis allé le voir à l'hôpital Georges Pompidou. Il m'a raconté son histoire. Je suis rentré chez moi. Il m'avait envoyé une photo de lui sur son lit d'hôpital. J'ai fait un tweet. La tweetosphère s'est enflammée parce que, bon, il y a des gens qui suivent le CLAP, qui suivent un petit peu ce qu'on fait. À partir du moment où on a atteint les 50 retweets, c'est une espèce de cap, en fait. 50 retweets. Dans la demi-heure, Aziz, il a eu un coup de fil de Deliveroo et d'AXA. Oui, bonjour monsieur, je dis, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Vous savez, on allait vous appeler, on allait vous contacter, c'était pas la peine de faire le buzz sur Twitter. Ouais, mais si je l'avais pas fait, potentiellement, vous m'appeliez pas. Et donc, Aziz, pour terminer l'affaire Aziz, il est sorti de l'hôpital, il est rentré chez lui avec un bout de son intestin dans une poche en plastique parce que le côlon, hein, les selles, tout ça, l'infection, le côté pathogène du côlon. Donc pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour lui de faire du vélo. Donc il est arrêté pendant X temps et il se trouve qu'en fin de compte, les questionnaires qu'on lui a demandé de remplir, ça ne traite, il y a un barème que pour les membres en fait. Donc il est tarifé en fait, il y a la main, combien il va gagner pour la main, combien il va gagner pour le bras, s'il se fait amputer, s'il perd un orteil, s'il a une cécité, s'il devient muet. Donc en fait, il est barémisé pour les membres et pour la tête. Ce qui lui a fait me dire, En fin de compte, les livreurs n'ont pas de corps. Bah oui, lui, c'est un traumatisme abdominal. Donc, il n'a pas de corps. Et en fin de compte, pas plus tard que... Bah, il n'avait pas de nouvelles d'AXA après être rentré chez lui depuis encore 15 jours. On a refait un tweet. Hier soir, j'ai fait un tweet. Ce matin, il avait un coup de téléphone. C'est marrant, quoi. Et AXA lui dit... quand il leur pose la question, mais comment ça se fait qu'en effet, sur votre barème, il n'y a pas marqué les traumatismes abdominaux ? AXA lui répond, c'est parce que Deliveroo, en fin de compte, ils ont pris la formule, ils ont pris le menu, quoi. Ils ont pris la formule minimum, le premier prix, donc c'est tarifé au minimum, quoi. AXA lui dit, quoi. Il me le répète, et je vous le dis, ça sera enregistré à la radio. Bon, bah, AXA, bonjour. Voilà, faites une jolie pub à la télé, parce qu'à mon avis, ça va faire mal quand ça va commencer à se savoir. Oui, grosso modo, la super assurance que Deliveroo a construit suite à tous les événements de cet été contre Deliveroo, les manifestations, tout ça, ils ont pris un truc premier prix, ils ont pris une espèce de gadget assurantiel. Alors, ils ont fait un foin, non pas possible. Il y a des articles dans Le Figaro, dans Les Échos, dans tous les journaux de gauche, en fait, hein, pour dire, voilà, Deliveroo assure ses livreurs. Sauf que, ouais, l'assurance, on a vu ce que ça donnait, quoi. C'est un truc ni fait ni à faire. Donc, voilà. Et tout ça pour finir sur les chiffres. Je parlais de chiffres. Deliveroo aime beaucoup les chiffres, en fait. 82% de nos livreurs sont satisfaits. On a dépassé nos 2 millions de commandes. On a levé presque 1 milliard d'euros en 2 ans. Moi, j'ai d'autres chiffres, en fait. En 2017, Deliveroo, je ne parle pas de l'ubérisation, Deliveroo, c'est dans 7 pays européens, dans 22 villes, c'est 40 grèves en un an. Alors qu'en 2016, il y en a eu 3 des grèves. Une petite à Londres, une petite à Bordeaux et encore à moitié, et une à Turin. Par contre, en 2017, il y a eu 40 grèves dans tous les pays d'Europe, en Espagne, en Italie, en Allemagne, évidemment, en France, à Londres, en Belgique, aux Pays-Bas. Et ne serait-ce que ces 10 derniers jours, il y en a eu 4. Tout ça pour dire qu'en fin de compte, l'ubérisation, je vous disais tout à l'heure, on commence à savoir ce que c'est au niveau de la base. Les 82% de livreurs Deliveroo contents de leur flexibilité, non, ils ne viennent pas pour de la flexibilité, ils viennent pour du travail. Sauf que le travail leur rapporte de moins en moins parce que Deliveroo met en place des systèmes de rémunération qui gagnent de moins en moins. Ils mettent les livreurs évidemment en concurrence avec le système de classement que je vous parlais tout à l'heure. Et donc évidemment que ça bloque, en fait. Évidemment que ça bloque. Ce que je disais il n'y a pas longtemps à une journaliste, je lui disais quelque part, c'est vrai que le salariat, le syndicalisme, j'ai presque envie de dire à notre niveau, les centrales syndicales, enfin, je les vois, je les côtoie, je les connais, elles ont vachement de mal, en fait, à se mettre en place sur notre problématique. C'est comme si, quelque part, ces travailleurs que nous sommes, n'appartenant pas au salariat, alors oui, en effet, on peut rentrer dans les centrales syndicales. En plus, la loi travail nous y autorise. Il a fallu qu'on soit autorisé par la loi travail à pouvoir se syndiquer. Les centrales syndicales, elles ont vachement de mal, quand même, à savoir où est-ce qu'elles vont nous mettre, en fait. Donc, bon, elles prennent le temps. On n'a pas le temps. Ce qui fait qu'en fin de compte, les livreurs s'unissent les uns les autres dans des collectifs qui n'ont de collectif que le nom. En fait, il n'y a pas encore de statut réel, sauf à Bordeaux, où il y a un réel syndicat. Mais on est en train de se structurer tout seul, en fait. On est en train d'ubériser le syndicalisme. Parce qu'il va falloir qu'au bout d'un moment, les centrales syndicales se posent la vraie question de savoir où est-ce qu'on les met, dans quel bureau, quel poste on leur offre et quelle méthode, quel moyen. Je disais donc à cette journaliste, c'est comme si Deliveroo, c'est comme si l'ubérisation nous réoffrait l'international, en fait, parce que les livreurs, souvent, passent de petits patrons, on leur a vendu qu'ils seraient leur propre patron, donc ok, j'ai une démarche presque libérale, entrepreneuriale, à syndiqué, enfin, pas syndiqué, en fait, militant actif, quoi, c'est-à-dire... On se débrouille, on fait une manif, on se réunit sur des groupes Telegram ou Facebook ou WhatsApp ou que sais-je. On ne passe plus par l'UD, l'Union départementale ou l'Union locale, Cégep, où on a une salle à la Bourse du Travail, on se réunit. C'est ce qui s'est passé à Bordeaux. Mais à Bordeaux, c'est spécifique parce qu'il y a eu un univers syndical qui se prêtait à ça. C'est des personnes, en fait. Hein. C'est pas tellement des syndicats. C'est des personnes qui ont décidé d'agir avec les quelques livreurs bordelais. On est en train de recréer le nouveau syndicalisme. Et j'en parlais tout à l'heure, je parlais des coopératives. Les coopératives et les syndicats ont un travail à faire les uns avec les autres. Il va falloir que on travaille ensemble parce qu'on ne pourra pas avoir accès, comme les plateformes classiques, à des millions, voire des milliards de capital risque anglo-saxon ou libéral. Il faudra qu'on ait accès à des moyens, non pas des moyens pécuniers, mais au moins des partenariats. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup en relation avec des mairies communistes, des mairies de gauche, pour mettre en place ces systèmes de coopératives. Mais tout ça pour dire que voilà, on passe de livreurs qui étaient des entrepreneurs à des livreurs qui sont des militants presque gauchistes, quoi. Même si certains ne l'avouent pas. Mais ce qu'ils font, voilà, c'est pour resocialiser un travail. Et qu'est-ce que c'est que si c'est pas un petit peu du gauchisme quand même, quoi.
Bonsoir, merci. Est-ce que une toute petite question, est-ce que ceux qui travaillent dans la coopérative, la COPCycle, sont des salariés ou quel est leur statut? Et deuxième chose, tu n'as pas parlé du mécanisme de, comment dirais-je, de notation, c'est-à-dire que quand on délivre quelque chose, celui qui reçoit la marchandise ou celui qui a pris le taxi Uber, il note celui qui lui a offert le service. Donc, en fait, on est dans un système où on devient un peu schizophrène, c'est-à-dire j'utilise Uber, je note celui qui m'a offert le service, mais en même temps, moi, je suis uberisé par ailleurs, quoi.
Oui, ça lancerait le travail du travail gratuit, parce que quand on note un livreur quelque part, on offre des données en plus de ces données de consommation. À quelle heure je consomme quoi, dans quel quartier, ça c'est une des valeurs des plateformes. Donc c'est du travail gratuit. Et puis oui, surtout ça pose la question de savoir à quel moment le client est complice en fait de la plateforme, de ce système de notation. La notation en plus, elle évidemment, c'est une donnée primordiale dans le classement des livreurs qui lui donnera accès ou pas à quelle heure sur la plateforme. Ça c'est d'ailleurs tout le discours des plateformes. J'en discutais il n'y a pas longtemps, tu me disais que tu avais vu l'émission Arrêt sur image. On a fait une émission Arrêt sur image que je vous invite à regarder si vous êtes abonné, où il y avait un invité qui était là, mais qui n'était pas là, qui s'appelle Denis Jacquet, qui a créé l'Observatoire de l'ubérisation, qui est un monsieur au demeurant très gentil, mais qui est parti du principe que bon, l'ubérisation, parti pris que c'était quand même bénéfique et moderne. Et il le dit en fait. Il le dit, et quand il parle, j'ai presque envie de dire que c'est un petit peu l'ubérisation qui parle. C'est le client, en fait. C'est de la faute du client. C'est parce que c'est le client qui veut consommer pas cher. C'est lui qui choisit de consommer dans ces plateformes-là. Sauf qu'en fin de compte, ce qu'il dit pas, c'est que le client, évidemment, qui consomme, ça lui coûte 2,50€, comme je vous disais tout à l'heure, pour se faire livrer de la bouffe pour 5 au 6e étage sans ascenseur. C'est hallucinant d'avoir mis en place un prix comme ça. Sauf si on sait qu'en fin de compte, ce prix-là, on s'en fiche parce qu'on a... On n'en a pas besoin quand on s'appelle Deliveroo ou Foodora. On n'a pas besoin de ce prix-là pour vivre. C'est un prix factice parce qu'évidemment, on ne va pas filer le truc à 10 centimes. Il faut un prix plancher. Mais évidemment, à terme, s'il n'en reste qu'un qui doit gagner de l'argent parce que ses investisseurs lui diront « Eh, oh Kiki, quand est-ce qu'on récupère nos sous ?» Bon, là, évidemment que le prix va être obligé de remonter. Mais j'ai quand même envie de penser que, comme je vous disais tout à l'heure, le but de ces plateformes-là, ce n'est pas de créer un service sur lequel... duquel elles vont vivre. Ce qu'elles veulent, c'est créer une servitude qui leur permettra de continuer à avoir ces tarifs planchers parce que de toute façon, les travailleurs leur coûteront de moins en moins cher. Pour l'instant, un livreur gagne à chaque livraison 5€. En province, c'est 5€. À Paris, c'est 5,75€. Niveau de vie, blablabla. Donc 5€ de la course. S'il fait 3 courses dans l'heure, ok, il gagne 15€ de l'heure. Tout le discours de Deliveroo, et là je vous le fais, je ne change pas une virgule et je vous l'offre à vous parce que je sais que ça vous parlera. En moyenne 14€ de l'heure, ils ont fait des statistiques, en moyenne c'est 14€ de l'heure parce que voilà, un livreur ferait à peu près 2,8 courses par heure. Deliveroo dit ça fait 14€ de l'heure, c'est quand même 40% de plus que le SMIC. Oui, comparé du chiffre d'affaires, parce que c'est ça en fait, du chiffre d'affaires de 14€ de l'heure à un salaire, et notamment le salaire qui est le SMIC, je me dis, c'est quand même un petit peu prendre les gens pour des imbéciles. Alors, les livreurs, bon, eux, ils ont juste besoin de sous, quoi. la protection sociale, les assurances, c'est pour quand on se pète la figure, et puis ça arrive qu'aux autres. Alors parlez-en à Aziz. Aziz, maintenant, il a compris, quoi. Mais bon, ça lui a coûté un bout de son intestin. Et je lui dis, Aziz, il n'y a pas longtemps, je t'aurais vu il y a 2 mois dans la rue, je t'aurais parlé de syndicalisme et de patati, de patata, de manif, tu m'aurais dit quoi ? Il m'a regardé un peu gêné, il m'a dit, mais t'embête pas, je sais ta réponse. Aziz, il roulait à fond, quoi. Aziz, il était à 11h. Aziz, il était dans les bons. Il roulait tout le temps, le samedi, le dimanche. Puis sa copine, en plus, elle faisait ça aussi. Donc, comme sa copine a été obligée d'arrêter de travailler pour s'occuper de son chéri, et boum, double peine. Les deux ont perdu leur boulot. Donc maintenant, il a fallu, j'ai mis hier en place une cagnotte pour que les livreurs participent un petit peu, parce que Aziz, il ne sait pas quand il verra l'argent, s'il le voit un jour. L'argent, c'est indemnité de ses assurances. Voilà comment ça se passe. Et puis, je digresse vachement. Pour Copcycle, en fin de compte, Copcycle, c'est des bénévoles, évidemment, parce que Copcycle, c'est pas un projet qui gagne de l'argent. C'est même pas un projet qui est voué à gagner de l'argent. On est, non-profit. c'est des militants issus de Nuit Debout qui ont décidé de faire un projet anticapitalistique à base d'un logiciel open source, donc qui serait offert, en fait, à des coopératives de livreurs. Donc il s'agit de construire, en effet, cet outil applicatif, informatique, et puis aussi du côté livreur, de construire les structures de coopératives, en fait, pour que les livreurs se réunissent, surtout pour aller vers du salariat, en fait, dans la livraison. Alors en effet, ça met en place tout un tas de choses sur lesquelles il faut travailler, parce que nous, oui, en effet, il va falloir qu'on gagne de l'argent, les livreurs. Je parle pas de Copcycle, alors que les plateformes, elles, se sont investies dans ce marché-là en n'ayant pas besoin d'en gagner, en fait. Parce que, je vous disais tout à l'heure, le service n'est pas le produit in fine.
S'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, moi, j'avais un petit complément à te demander. Tu nous as parlé des relations avec des collectivités locales qui avaient tout intérêt. Et je crois qu'à la mairie de Paris, Daniel Simonet racontait qu'elle avait réussi à faire voter un vœu qui était purement symbolique. Justement, raconte-nous quels sont un peu les rapports avec la mairie de Paris, comment ils voient un peu votre projet de coopérative.
Oui, alors Daniel Simonet, je l'avais rencontré l'été dernier, suite à la faillite de Take It Easy qui avait fait grand bruit dans les journaux, parce que, en fin de compte, oui, la faillite de Take It Easy venait en effet mettre en lumière la zone sombre, en fin de compte. Ce dont on ne parlait pas, c'est qu'est-ce qui se passe quand une plateforme ne fonctionne pas et comment ça s'arrête. Et on avait vu, par rapport au nombre des coursiers qui s'étaient retrouvés sur le carreau sans être payés, d'ailleurs, leur dernier mois d'exercice n'avait pas été payé. Alors que, pour la petite histoire, la veille de la faillite, le directeur de Take It Easy France se faisait lui-même livrer à manger, alors que je pense qu'il était au courant, hein, qu'il allait le lendemain même avec la clé sous la porte, mais il se faisait quand même encore livrer de la bouffe, quoi. Et il n'avait même pas donné de pourboire. C'est le livreur qui nous l'avait dit sur les réseaux sociaux. Mais je l'ai livré hier, Mathieu machin. Bref. Donc Daniel Simonet avait été sensibilisé par rapport à ça, puis en plus elle était aussi très très présente, très active au niveau des taxis et au niveau des VTC ubérisés dont elle s'est occupée assez tôt. Donc les livreurs arrivant dans cette bataille anti-ubérisation, elle l'a proposé à la mairie de Paris, de par sa place de conseillère élue au parti de gauche, Front de gauche, elle a proposé à la mairie de Paris un vœu pour que la ville de Paris s'intéresse, se penche, réfléchisse, accompagne un projet qui n'avait à l'époque pas de nom, un projet de coopérative de livreurs à vélo, parce que c'était déjà quelque chose dont j'avais commencé à parler dans la presse. On dit souvent que quand une idée est dans l'air du temps, elle apparaît un petit peu partout, à différents endroits. Moi, il se trouve que j'ai commencé à penser coopérative sur mon vélo en me disant, mais... En effet, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il n'y a pas besoin d'usines, de machines, de terrain, de beaucoup de choses pour construire une coopérative. Il s'agit juste de se réunir les uns les autres et se dire, bon, voilà, on va aller chercher des clients, enfin des commerçants, et puis développer une application, faire un logo, que sais-je, c'est pas très compliqué. Et au même moment, c'était l'année dernière, en plein Nuit Debout, la fin de Nuit Debout, c'était l'été 2016, un développeur, Alexandre Segura, avait été sensibilisé à la faillite de Take It Easy, lui, parce que c'est son beau-frère, en fait, qui était livreur Take It Easy, qui, du jour au lendemain, s'est retrouvé sans boulot. Il lui en a parlé. Et Alexandre, en bon développeur, un petit peu sachant, pensant, parce que bon, il faisait partie de Nuit Debout, Place de la République, il s'est dit, ben ouais, je vais créer une application, en fait. Je vais créer une application et ça va être gratos. Alors bon, ça va être un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'on peut pas dire qu'on sera gratuit. On va être offert, on s'offrira, c'est vrai, aux coopératives. Mais bon, évidemment, il faudra qu'on arrive à faire au moins tourner les machines et les serveurs. Donc, il faudra qu'on ait quand même un petit peu de sous, qu'on essaiera de prendre via des subventions. Alors, certainement pas des levées de fonds, mais bon, tout un tas de choses qui restent à construire, parce que notre modèle économique est à construire. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut qu'on arrive à être pérenne. Donc voilà, Daniel Simonet avait entendu parler de ce projet de coopérative et donc on avait parlé à la mairie de Paris, puisque oui, en effet, ce projet, ce statut de SIC, de société coopérative d'intérêt collectif, permet un espèce de, comment dire, un multipartenariat, en fait, que je vous parlais tout à l'heure du partenariat public-privé, permet à des travailleurs de comment dire, d'être au sein d'une même coopérative dans un collège, et un autre collège peut être une collectivité territoriale. Bon, sans rentrer dans la complexité de la chose, qui pourtant ne l'est pas tant que ça, en fait, si on reste dans les grandes lignes. Voilà, la mairie de Paris s'est intéressée au projet. Au début, on va dire dubitative. Ben, c'est vrai que, je le dis franchement, même si ça avait passé à la radio, Alexandre et moi, quand on a débarqué à la mairie de Paris l'année dernière, on n'avait pas grand-chose dans nos cartons. C'est vrai qu'on avait des belles idées. Moi, j'avais un réseau de livreurs que je connaissais très bien. Je connaissais la problématique. Lui, il savait coder. Il savait développer une application. C'est ensuite, en fait, qu'il a rencontré tout un tas de gens qui se sont intéressés au projet. Dans les structures dans lesquelles il a travaillé notamment à l'IRI, l'Institut de Recherche et d'Innovation de Bernard Stiegler, qui travaille notamment avec tout un tas de gens comme ça sur l'innovation, sur l'avenir, sur les nouvelles technologies, mais on va dire dans une idée plutôt sociale, plutôt progressiste et non pas moderniste. Je fais souvent la différence fondamentale entre les deux mots. C'est pas parce que c'est moderne que c'est du progrès. Hein, je fais souvent le parallèle avec tout un tas de choses qu'on peut trouver sur Internet qui sont en effet modernes par la forme, mais pas du tout progressistes par le fond. Je ne citerai pas ces choses-là. Bref, enfin, Internet et toutes ces déviances. Donc voilà, travaillant au sein de l'IRI, il a rencontré tout un tas de gens, et puis surtout, il a réactivé le réseau qu'il avait Nuit Debout, qui étaient des gens qui ne se sont jamais perdus de vue, mais qui, fil en aiguille, se sont intéressés au projet. Ce qui fait qu'on était deux l'année dernière, non, en début d'année 2017, c'était encore cette année, à aller rencontrer la mairie de Paris, c'était en début d'année. Voilà, ils avaient été super gentils avec nous, mais bon, un petit peu quand même, bon, voilà, vous n'avez pas grand-chose, vous n'avez pas de modèle économique. Le modèle économique, c'est le Graal. Et puis voilà, on est retourné les voir il y a quelques mois avec un projet beaucoup plus construit, avec voilà, un discours carré, voilà, et surtout une médiatisation qui avait quand même eu lieu cet été via les manifestations Deliveroo, où en effet on a commencé à nous poser tout un tas de questions sur oui, d'accord, bon, Deliveroo c'est pas bien, libéralisation c'est pas bien, mais après, est-ce que vous avez d'autres idées? Évidemment, l'idée de coopérative est arrivée naturellement dans les débats et donc les médias se sont intéressés à CoopCycle. Tout ça pour dire que oui, CoopCycle, ça devient un projet. C'est pas qu'un projet applicatif. Hein, quand on en parle, et on se verra demain, tous les mercredis soirs, on se réunit pour travailler. C'est un gros taf. Hein. Moi, l'idée que j'ai eue sur mon vélo de « on va faire une coopérative de livreurs », wow, j'aurais pas fait le dixième de tout ce qu'on fait chaque jour, presque, parce que c'est tous les jours sur Telegram ou sur Internet, et puis tous les mercredis, on pragmatise la réunion avec un ordre de jour, c'est très normé, en fait, c'est très organisé, en fait, c'est ça qui me rend confiant dans ce projet de coopérative, notamment CoopCycle, c'est que quand je vois le niveau d'organisation que ces jeunes-là mettent en place, ces jeunes donc bénévoles qui sont salariés et qui font ça sur leur temps libre, ou qui sont au chômage et qui font ça, bah, pareil. Quand je vois le niveau d'organisation, le niveau d'implication et jusqu'où ils réfléchissent, ouais, ça me donne vachement envie d'y croire, parce que moi, je ne serais déjà pas allé jusque-là, parce que je n'ai pas le bagage universitaire ou ne serait-ce qu'intellectuel. Je le dis des fois, moi je voulais juste faire du vélo quoi, et gagner ma vie comme ça. Et non, il se trouve, pour faire un produit simple pour les livreurs, pour les coopératives de livreurs, évidemment, c'est très très compliqué. Enfin, la simplicité d'un iPhone en fait, ou d'un téléphone mobile qui fonctionne avec le doigt, en effet, ça demande beaucoup de complexité. Là, c'est pareil. Il faut mettre en place un nouveau, non seulement un modèle économique, mais un schéma, en fin de compte, un schéma de valorisation complet qui passe aussi par des partenariats politiques, évidemment, et par une refonte, une resensibilisation du commerçant, du client, du livreur, mais c'est pas le premier impacté, en fait. C'est vrai qu'au départ, c'est pour lui qu'on fait ça, c'est pour les livreurs, mais il y a de grandes chances que ça impacte beaucoup, beaucoup plus de gens que ça, quoi.
Merci.
Bonsoir. Je voudrais savoir, il y a combien de micro-entrepreneurs ubérisés en France, à peu près ? C'est la première question. Et la deuxième, vu que l'âge est assez jeune, moi, je pense notamment aux futurs retraités dans quelques décennies. Que vont devenir ces personnes, sachant que j'ai lu dernièrement que dans 40 ans, à peu près, un tiers de la population française aurait plus de 60 ans. Un tiers de la population française aurait plus de 60 ans. Alors, tous ces jeunes qui sont précarisés, comment vont-ils faire pour cotiser et qui paiera plus tard leur retraite ?
Oui, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toute la question des cotisations et du financement des retraites, du chauffe, de toutes les protections sociales, hein, de tout le schéma social qui va devoir découler de ce travail très très peu rémunérateur, déjà évidemment au niveau concret, et puis au niveau social, la question se pose. J'ai envie de dire que les gens qui travaillent là-dessus, pour l'instant, sont des gens qui ne se posent pas la question. Je parle des politiques, je ne parle pas des administrations. Ce sont des gens qui ont envie de se poser la question de savoir dans 10-15 ans. Le projet qu'on leur vend chez AXA ou chez Goldman Sachs, pour ne pas dire de gros mots, c'est vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout, quoi. Sauf que bon, je vous parlais d'Asie tout à l'heure, on voit comment ça se passe, comment quand le privé récupère ce genre de bébé. Combien ils sont en France ? Je peux parler que des livreurs. Les livreurs sont à peu près 10 000 en France, des livreurs auto-entrepreneurs. Je prends les chiffres des plateformes hein, qui sont tous, sauf à ce niveau-là, à remettre en doute parce que bon, elles ont pas intérêt à cacher ou à minimiser ou à maximiser, ne serait-ce que par le fait que de ce chiffre découle une visibilité au niveau des investisseurs. Donc bon, plus une plateforme a de livreurs, mieux c'est. Voilà, Deliveroo parle de 7500 livreurs. On peut dire que ça, je pense, ça a augmenté. Plus les autres plateformes qui sont des outsiders, mais bon, on arrive à peu près à un chiffre de 10 000 livreurs en France. Les VTC, je crois, c'est 30 000. Les VTC, les voitures avec chauffeur, c'est 30 000 en France. C'est énorme. Hein. Enfin, on le voit notamment à vélo dans Paris. C'est rare. Quand on n'est pas, quand il n'y a pas une berline noire à gauche, en face, à droite, c'est fou, on en voit partout. Et puis après, bon, on va dire pollution, patati patata, voie sur berge, le vélo, c'est bien le vélo. C'est un petit peu pour ça qu'on travaille de plus en plus proche de la mairie de Paris. C'est parce que la mairie de Paris a compris, du moins on a su leur faire comprendre que le vélo, certes, c'était un outil de transport, c'était un outil de loisir, et ça pouvait être un super outil de travail, quoi. Et donc voilà, c'est un petit peu l'objet de l'engouement de la mairie de Paris pour Copcycle. J'espère ne pas trahir ce qu'ils nous voulaient garder. Mais bon, donc voilà, la question que tu posais me fait penser à quelque chose aussi. C'est il n'y a pas très très longtemps, bon, on pourrait dire, pas plus tard qu'hier, c'est arrivé souvent que des jeunes, souvent, et cette phrase-là, hier sur France 5, il y avait une émission qui s'appelait « Le mirage de la flexibilité ». Où la flexibilité, ce mirage. Et il se trouve que, ben voilà, on était Melchior, un livreur, et moi interviewé dans ce reportage-là. C'est un reportage qu'on a tourné au début de l'année. C'est un reportage qui a un an. Autant vous dire que c'est un truc super super vieux, quoi. Il n'y avait pas d'assurance à l'époque dans les plateformes. C'est un an, c'est 20 ans au niveau classique. Donc il y avait Melchior qui était interviewé, qui était interviewé, le côté content, en fait, le livreur content de travailler. Lui travaillait pour Stuart. Voilà, il était content parce qu'il était flexible et il faisait ça le temps de ses études. Sauf que Melchior, il fait des études, il va finir ses études, il va rentrer dans je ne sais quel poste, je ne sais pas quelles études fait Melchior, mais on va lui proposer quoi à Melchior ? On ne va pas lui proposer un CDI, on ne va pas lui proposer un contrat de travail, on va lui proposer une mission. Au mieux, un contrat de mission, un contrat de projet, je crois, un truc comme ça. Et au mieux et au pire, on lui proposera, et même dans des choses pourtant qu'on imagine, où on n'imagine pas l'auto-entrepreneuriat comme étant déjà présent, mais des universités, des tout un tas de choses comme ça, où on propose à des auto-entrepreneurs de faire des missions pour telle ou telle chose. Donc oui, voilà, ça va bien au-delà de la protection sociale et de la retraite et du chômage. C'est pas Melchior dans 40 ans, c'est Melchior dans 3 ans. Quand il va sortir avec son bagage, avec son cursus, qu'il aura payé en partie grâce à Deliveroo, ben ouais, mais en fin de compte, on va le mettre en concurrence aussi sur le marché du travail réel avec d'autres gens qui, eux, feront des missions d'auto-entrepreneuriat. On le voit. Pourquoi les journalistes se sont beaucoup emparés du sujet de l'ubérisation et notamment des livreurs à vélo ? C'est parce que les journalistes ne sont pas les derniers à savoir ce que c'est que la précarité dans le monde des pigistes. Alors déjà, les pigistes, ce n'est pas un truc super, super, super glamour au niveau social, mais maintenant, on ne demande même plus aux journalistes d'être pigistes, on leur demande d'être auto-entrepreneurs. Et pour peu qu'on soit un journaliste un petit peu conscient, un petit peu, et pour ne pas dire syndiqué, un petit peu, voilà, ouais, conscient, ben on refuse, ben on n'a pas le taf. Mais de toute façon, il y en a 3, 4 ou 5 derrière qui accepteront l'article ou le reportage avec le statut d'auto-entrepreneur. Donc, il ne faut pas se leurrer, quoi. Il y a des secteurs qu'on n'imagine pas, qui sont déjà très, très impactés. Et les journalistes ne sont pas les derniers.
J'ai lu dans un article du Parisien, il parle sur l'ubérisation de travail, ouvrez les guillemets, travail au noir, fermez les guillemets. L'URSSAF parle de travail dissimulé, pour ne pas dire travail au noir. Comment se fait-il que les hommes politiques aient laissé faire de telles choses alors qu'on est en pleine illégalité ?
Je pourrais vous faire du Macron. Je vais vous faire du Macron. Enfin, je ne sais pas si tout le monde a vu ce truc-là, mais il faut s'en souvenir. Il faut l'avoir marqué dans sa tête. C'est quelque chose que moi que Saïa Baroun, qui est mon homologue un petit peu chez les VTC, on en fait encore des cauchemars. Macron est invité chez Mediapart, qui n'est pas le journal le plus libéral qui soit, enfin le média, et il est interviewé par... Il est interviewé par Rachida El Azouzi, que je connais parce qu'elle m'a interviewé aussi. Et elle le repousse un petit peu dans son retranchement, parlant de l'ubérisation. C'est un des sujets de la campagne électorale. L'ubérisation, ceci, cela. Et il lui dit, mais les yeux dans les yeux, parce qu'on a les chiffres, notamment des VTC. On sait que les mecs roulent pour entre 3 et 4 euros de l'heure de chiffre d'affaires. Et on lui dit ça, en fait. Il dit oui, mais allez... Qui ne l'a pas vu ? Qui ne l'a pas vu ? Macron dit, il n'est pas encore président, il dit, allez expliquer Astin à quelqu'un qui a décidé, de manière volontaire, d'être chauffeur-livreur. Allez lui expliquer qu'en fin de compte, c'est pas bien pour lui. Et il continue. Donc évidemment, on a rien su lui proposer, ni vous ni nous, enfin, lui en tant que politique et elle en tant que journaliste, intellectuel, on n'a rien su lui proposer, blablabla. Et en effet, rien que d'y repenser, ça me... En effet, il gagne le SMIC en travaillant 50-60 heures par semaine. Mais il rentre dans la dignité par le travail. Et on a vu ça. En plus, il était chez Mediapart, quoi. Et s'il a pu dire ça chez Mediapart sans que Louis Plenel, qui était là sur le plateau, ou sans que personne lui rentre dans le lard, parce qu'en plus, à l'époque, il n'était pas encore président, donc il n'y avait pas les gorilles derrière. Je veux dire, ça veut bien dire que, quelque part, oui, on peut dire ça. Et si on peut dire ça, on peut le penser, comme dirait Lepage, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Si on peut le dire, on peut le penser, et le dire en plus chez Mediapart. Donc, les politiques s'en emparent pas, parce que, quelque part, l'ubérisation, elle met des jeunes au travail, en fait. Des jeunes qui travaillent, c'est des jeunes qui pensent pas, c'est des jeunes qui réfléchissent pas, ou disons moins vite. Certains le font, c'est comme ça qu'on en arrive à créer des collectifs, mais bon, voilà, c'est pas les plus dans le besoin, on va dire, qui militent. ceux qui sont dans le besoin, ils roulent. Et quand ils nous voient avec notre acte du CLAP à Paris ou avec notre acte du syndicat à Bordeaux, ouais, c'est bon, quoi, les syndicats. Ma mère, elle a été femme de ménage. Quand elle s'est fait virer, les syndicats, ils n'ont rien fait pour elle. Bon, sa maman, elle n'était pas syndiquée. Mais bon, c'est un petit peu le discours qu'on voit. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais du néo-syndicalisme ou de l'ubérisation du syndicalisme. C'est, en fin de compte, utiliser des nouvelles méthodes syndicales comme les plateformes ont utilisé des nouvelles méthodes économiques, en fait. C'est la mouvance, en fait. Les politiques se réfugient derrière le fait que ça fait moins de chômeurs. Ça fait plus de précaires, mais les précaires, c'est pas grave. On va s'en occuper après.
Bien, eh ben merci. Je profite des derniers mots pour vous annoncer la prochaine session qui va se dérouler à Limay. Alors, c'est pas juste à côté, à la nouvelle réserve, à la librairie de la nouvelle réserve. C'est le samedi 13 janvier. Après-midi, de 15h à 18h. C'est une présentation-discussion avec Irène Pereira, qui est sociologue. Privilège et oppression, peut-on organiser une société sans mérite? Voilà, je vous invite à y aller le samedi 13 janvier, 15h-18h à Limay, à la Nouvelle Réserve. Merci encore à Jérôme, qui va repartir sur son vélo. Et à bientôt.
Je ne suis pas venu d'Argenteuil à vélo, je suis venu en train.